ce matin, j'aimerais vous présenter notre prédicateur invité, M. Djabala, Amar Djabala, est titulaire d'études postdoctorales en théologie de l'Université de Toronto et de l'Université de Montréal. Il est aussi doctorant en lettres et en philosophie de l'Université La Sorbonne à Paris, professeur de théologie, doyen honoraire de la faculté théologique évangélique, théologie plutôt évangélique de Montréal, affilié à l'Université de l'Acadia. M. Djabala a publié Les paraboles d'aujourd'hui aux éditions XL6. Il a aussi publié plusieurs articles dans des revues ainsi que divers articles dans le New Bible Dictionary, traduit en français par les éditions XL6, qui porte le nom Le Grand Dictionnaire de la Bible. Et dernièrement, il est aussi directeur de collection aux éditions Exit. Monsieur Djabala a une grande passion pour la proclamation intelligente de l'Évangile dans la francophonie. Humble, homme de famille, il est resté accessible pour servir l'Église de Jésus-Christ. C'est un privilège pour moi ce matin de vous inviter à écouter ce que Dieu veut bien nous enseigner à travers les paroles de notre frère Amar Djabala.
Bonjour à vous. C'est une joie tout à fait spéciale pour moi d'être ici. Et j'espère que le Seigneur pardonnera à notre frère Jean tout ce qu'il dit. Ce qui me plaît le plus, c'est d'être un frère avec des frères et sœurs et un serviteur du Seigneur pour lire, étudier, écouter ensemble la parole de Dieu et voir comment l'Esprit de Dieu l'applique à notre vie, à nos besoins. C'est un privilège tout à fait spécial, justement, d'être le porte-parole de Dieu. Et je vous assure que j'aimerais que vous écoutiez la parole du Seigneur et pas du tout ma parole. J'aurais réussi si j'ai pu traduire ce que le Seigneur a pour nous tous ce matin. Je ne sais pas si le texte a été projeté de Luc, on en avait parlé brièvement hier, mais je ne sais pas si... Sinon, on va simplement le lire ensemble. De toute façon, nous allons le lire. Il s'agit, vous savez, quand on prêche dans une église où on est invité, on réfléchit, on prie beaucoup pour voir quel est le thème, le passage de l'Écriture que le Seigneur a préparé plus ou moins à l'avance, et je dois dire que j'ai changé d'avis après 3 mois de réflexion sur un passage. Il y a une semaine, pour des raisons qui j'espère viennent de Dieu, le Seigneur m'a redirigé vers un passage différent, et c'est donc sur ce passage-là que je vais prêcher ce matin. Il s'agit de Luc 19, 11, 27, Luc 19, 11, 27, et il s'agit de cette parabole à laquelle on fait référence de façon coutumière, comme la parabole des mines, mais comme presque tous les titres des paraboles, les titres ne conviennent pas au contenu. Ce sont des titres que la tradition a réussi à leur coller, et c'est très très rare qu'ils reproduisent réellement le contenu de ces récits, paroles de Dieu pour nous. Et en fait, le titre que je vous suggère, c'est plutôt un prince qui va recevoir la royauté et charge des serviteurs de faire des affaires pendant son absence. C'est un titre beaucoup plus long. Quand on parle de parabole des mines, c'est beaucoup plus court. Mais ça a l'avantage de traduire et de résumer, je pense, ce que le Seigneur a voulu communiquer et ce que Luc donc a repris pour nous. Un prince va recevoir la royauté et il charge des serviteurs donc de faire des affaires pendant son absence ou jusqu'à son retour. Alors je vous invite à l'écoute donc de cette de cette parabole du Seigneur au chapitre 19 de Luc et à partir du verset 11. Comme ils écoutaient cela, il ajouta, donc Jésus ajouta une parabole, parce qu'ils étaient près de Jérusalem et qu'ils imaginaient que le règne de Dieu allait se manifester à l'instant même. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de la royauté, puis revenir. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, « Faites des affaires jusqu'à ce que j'arrive. » Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade derrière lui pour dire, « Nous ne voulons pas que cet individu règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de la royauté, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de savoir quelles affaires ils avaient faites. Le premier se présenta et dit, « Maître, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien, tu es un bon serviteur, puisque tu as été digne de confiance. Dans une petite affaire, tu auras autorité sur 10 villes. » Le deuxième vint et dit, « Maître, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit, « Toi, de même, tu seras responsable de 5 villes. » Un autre vint et lui dit, « Maître, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Je te craignis en effet parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je te jugerai sur tes paroles, mauvais serviteur, mauvais esclave. Tu savais que moi je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé et que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas placé mon argent dans une banque ? À mon arrivée, je l'aurais retiré avec un intérêt. » Puis il dit à ceux qui étaient là, « Enlevez-lui la mine et donnez-la à celui qui a 10 mines. » Ils lui dirent, « Maître, il a déjà 10 mines. » « Je vous le dis, » la réponse, « on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Après avoir dit cela, il partit en avant et monta vers Jérusalem. Je pense qu'on comprend, si on s'avise, que cette parabole n'est pas très étudiée. Je me suis rendu compte en fait que c'est l'une des paraboles des évangiles qui est parmi les plus délaissées, et peut-être la plus délaissée. Elle a ses difficultés, les dernières paroles du Seigneur dans l'histoire pointent vers certaines de ces difficultés. On donne à celui qui a et on enlève à celui qui n'a pas. Ça semble tout à fait paradoxal et énigmatique, et ça semble pas très chrétien. Hein, ça ne semble pas représenter le Seigneur Jésus comme il le faut. Comment se fait-il que à celui qui a déjà, qui est déjà un entier, on en donne encore, et on enlève le peu à celui qui a donc ce peu, ce rien, on le lui enlève. Et puis cette scène de mettre à mort de façon qui semble assez atroce les ennemis du roi aussi nous peut nous choquer aujourd'hui. On peut ne pas la trouver tout à fait représentante du Seigneur Jésus et de son amour pour ses ennemis. Donc le contenu, si vous voulez, de l'histoire elle-même que Jésus raconte peut surprendre et on peut avoir des difficultés très réelles à le comprendre. Il faut ajouter à cela que cette parabole est souvent à l'ombre d'une autre parabole qui lui est proche, mais qui, à mon avis, est très différente, qui est une parabole vraiment distincte, que Matthieu rapporte. Matthieu rapporte la parabole à laquelle on fait référence, c'est l'expression la parabole des talents. C'est une parabole qui est beaucoup plus claire, qui n'a pas en particulier la scène de la mise à mort des ennemis du roi, et qui a une trame beaucoup plus facile, qui ne fait pas du tout intervenir les concitoyens qui vont, après le prétendant à la royauté, pour saboter son entreprise, Et donc, en général, cette parabole-là a complètement été délaissée. Et pourtant, je suis persuadé, un, parce que c'est le Seigneur qui l'a donnée, qu'elle a sa raison d'être, et à l'étude, elle a vraiment des leçons qui ne se trouvent pas ailleurs, qui ne se trouvent certainement pas dans la parabole de Matthieu, et un ensemble de vérités qui se tiennent et qu'on ne trouve pas ailleurs avec la même force de persuasion que ce que nous avons ici. Alors je voudrais répondre aux difficultés et vraiment recueillir ce que le Seigneur nous transmet par cette parole et en faire l'application à notre temps et en particulier répondre à ces, disons, aux soucis que nous pouvons avoir relativement aux difficultés que je viens de noter. Mais écoutons d'abord la parabole. Et comme tout ce qui est dans l'Écriture, la parabole n'a pas été révélée dans les modalités du XXIe siècle. Elle n'a pas été écrite dans le français, même si nous la lisons en français aujourd'hui, et avec le cadre culturel, social que nous avons aujourd'hui. Et il faut vraiment toujours faire un effort, surtout pour nous qui croyons que la parole de Dieu est inspirée, que l'inspiration a été donnée dans le cadre, les cadres culturel et social du premier siècle et des siècles qui ont précédé pour les écritures hébraïques. Et donc pour nous, nous devons nous transposer en quelque sorte au premier siècle pour essayer d'écouter avec les oreilles de ceux qui ont écouté d'abord Jésus et ceux qui ont écouté l'évangile de Luc. On serait tenté de dire lire, mais en général, l'écrasante majorité des gens écoutaient même l'évangile et ne lisaient pas parce qu'ils n'avaient pas de texte pour l'essentiel entre les mains pour lire. Et donc, quel est le cadre de cette parabole? Et donc, je voudrais vraiment vous inviter à faire l'effort, encore une fois, de nous transporter, de faire cet exercice. Vous savez, on est habitué avec les films de fiction que nous voyons, on est souvent transporté dans d'autres mondes, et puis on accepte de le faire pour une certaine période. Ici, c'est pour être dans la présence de notre Seigneur lui-même. Il raconte cette parabole, nous dit le texte, nous dit Luc, après être sorti de Jéricho, où il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui s'est passé. La section qui précède le raconte, c'est la conversion de Zachée. Zachée, un homme riche, un chef des collecteurs d'impôts, une partie de la population qui était particulièrement puissante et particulièrement haïe. En général, ce sont des Juifs qui avaient pactisé avec l'ennemi romain et en raison de leur lien avec les autorités romaines, ils étaient craints par le reste de la population et donc ils ont profité pour s'enrichir sur le dos des autres. Et si vous essayez de vous rappeler les différents textes du Nouveau Testament où les publicains sont nommés, en général, ils sont nommés avec les pécheurs. Ils sont nommés avec les païens, ils sont nommés avec les prostituées. Ce n'est pas un groupe de gens auquel on voudrait s'associer. C'est vraiment les gens qui sont à l'extérieur du peuple de Dieu, même s'ils font partie, si vous voulez, racialement, ethniquement, ils font partie du peuple d'Israël. Ils en sont exclus parce qu'ils n'observent pas la loi. Ce sont les non-méritants. Ce sont les gens sur lesquels la colère de Dieu et le jugement de Dieu devaient s'exprimer. Et donc on les craignait, mais on les haïssait et on les méprisait en même temps. Et Zachée est l'un d'eux, et il entre particulièrement dans cette catégorie parce que c'est un chef des collecteurs d'impôts, donc il a une autorité encore plus grande que celle des collecteurs d'impôts réguliers, et il est riche. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrive, il se convertit. C'est les versets donc qui précèdent. Lorsque Jésus fut arrivé à l'endroit où Zachée se trouvait, il leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. » Et réponse de la foi, Zachée descendit pour le recevoir. Et voyant tout cela, tous maugréaient. Il est allé loger chez un pécheur. Zachée debout dit au Seigneur, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai extorqué, ainsi qui est tout à fait rhétorique, il n'y a absolument aucun doute qu'il a extorqué, quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus dit, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Dieu est arrivé pour sauver en Jésus-Christ. Et ceux qui sont sauvés ne sont pas les méritants, mais les non-méritants. Ce ne sont pas ceux qui pensent qu'ils ont un accès de droit à Dieu, mais ceux qui ont été exclus parce qu'ils reçoivent, ils accueillent le porteur de la bonne nouvelle, le porteur de l'évangile, et lui accordent leur foi et leur loyauté, une foi et une loyauté qui se manifestent par des œuvres concrètes. Je rembourse au quadruple et je donne mes biens aux pauvres. Si vous me faites le contraste entre Zachée et le jeune homme riche, c'est exactement ce que le jeune homme riche n'avait pas voulu faire. Vendre ses biens et les donner aux pauvres. Manifester de façon concrète sa loyauté et sa foi, sa fidélité au Seigneur qui vient apporter le salut. Mais à ce moment-là, c'était tout à fait révolutionnaire, parce que tous les contemporains de Jésus pensaient que si le salut devait venir, si Dieu, qu'ils attendaient, allait venir dans la personne du Messie, ils n'iraient pas voir les pécheurs, les prostituées et les collecteurs d'impôts. Ils iraient voir les gens à Jérusalem. Il irait au temple, il irait voir les docteurs de la loi, les prêtres, les responsables du peuple. Ce sont eux qui représentent le peuple, ce sont eux qui font les bonnes œuvres, qui s'acquittent des exigences de la Torah, et donc ce sont eux qui vont être aux premières loges pour recevoir le salut et pour reconnaître le Messie quand il viendra. Et Jésus est en train de brouiller toutes les cartes en prenant le rejeté par excellence, le banni, le paria, et en disant parce qu'il a exercé la foi, parce qu'il a accueilli le Messie, le salut est venu dans sa maison aujourd'hui. L'expression que Jésus utilise est très très intéressante. Il est aussi un fils d'Abraham. Il appartient à la famille de foi. Il n'est pas exclu. Et la phrase qui suit est la suivante, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Ça, c'est la quintessence de la bonne nouvelle. Le Fils de l'homme, le Messie, le Fils de Dieu incarné, Jésus, le Seigneur et Sauveur, est venu pour sauver ce qui était perdu. Et ce qui n'est pas perdu, il ne le sauve pas, par définition, parce que ça n'est pas perdu. Et donc, ceux qui ne se considèrent pas comme ayant besoin d'être sauvés, se mettent eux-mêmes à l'extérieur, en quelque sorte, de son accès. C'est cette histoire-là, si vous voulez, cet événement-là, qui cadre la parabole. Parce que les gens écoutaient, ils disaient, est-ce que le règne de Dieu va arriver? Est-ce que Dieu est venu pour régner, pour sauver? Et Jésus leur donne cette parabole, je pense pour trois raisons, en quelque sorte leur dire, oui, le règne de Dieu arrive, mais peut-être pas à la manière dont vous le croyez. Oui, Dieu vient pour régner et exercer sa royauté, mais de façon différente. Et donc, il apporte une réponse positive, mais en même temps, il précise que comment cette réponse va se faire. Et à un autre niveau, il les détrempe. Pourquoi est-ce qu'il pense cela ? Parce qu'il était sur le point d'arriver à Jérusalem. Et parce que, à partir de certains textes de l'Ancien Testament, mais surtout de toute la tradition juive intertestamentaire, les gens pensaient que quand le roi viendra, il viendra se faire couronner à Jérusalem, dans le temple. Et Jésus a donné suffisamment d'indices de sa royauté. Il a enseigné que le règne de Dieu était sur le point d'arriver. Et il pensait que voilà, il est sur le point d'arriver à Jérusalem, entre Jéricho et Jérusalem, il y a une trentaine de kilomètres, et donc il va se faire couronner. Et Jésus leur apporte cette parabole que je viens de lire, justement pour leur dire, ne vous préoccupez pas, si vous voulez, de cet événement-là, vous avez d'autres responsabilités. Et cet enseignement demeure valide pour nous aujourd'hui. Cette histoire, comme je dis, elle est un peu plus compliquée que les autres paraboles que Jésus raconte, parce que elle comprend, comme vous avez pu le voir, deux trames différentes. Ce sont deux histoires ou deux historiettes qui sont interloquées, qui sont entremêlées, et il faut vraiment suivre Jésus pas à pas pour voir là où il veut mettre l'accent et qu'est-ce qu'il veut faire ressortir. Un maître qui a, vous savez, dans certaines traductions, dit serviteur, dans d'autres traductions, dit esclave. C'est le même mot que l'on traduit par les deux. Dans l'Antiquité, à peu près un tiers de la population, sinon plus, sinon 40% de la population du monde romain était faite de serviteurs esclaves. Ni le mot serviteur, ni le mot esclave aujourd'hui ne rendent pleinement le statut et la situation de ces gens-là. Parce qu'ils n'étaient pas simplement des serviteurs employés dans des maisons, avec des contrats protégés par des lois, mais ils n'étaient pas des esclaves comme on en a vu des exemples tragiques dans les siècles qui ont précédé, où les esclaves étaient maltraités, où ils n'avaient absolument aucun recours, aucun droit et aucune issue. Les esclaves, à certains égards, dans les bonnes conditions, étaient proches des gens de la maison. Ils dépendaient entièrement du maître qui pouvaient agir avec une grande générosité à leur égard. Et dans certaines situations, les esclaves ont pu hériter. Ils ont été intégrés dans la maison et ils ont pu hériter. Donc vous avez ce statut, comme je dis, qu'il faut essayer de comprendre et qu'il est entre le serviteur et l'esclave. Le mot serviteur ou esclave est celui qui est aussi utilisé pour les serviteurs de Dieu. C'est le même mot qu'on utilise pour Abraham, pour Moïse, pour Josué, et suprêmement pour le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il est, dans Ésaïe, appelé le serviteur de l'Éternel. Et donc, ça n'est pas nécessairement un mot dérogatoire. Je pense qu'il faut dire que le lien qui liait à l'époque un maître à des serviteurs esclaves, c'est de la part de maître, du maître, il prend soin d'eux et il leur fait confiance. Et de la part des maîtres, des esclaves serviteurs à l'égard du maître, c'est une attitude de loyauté totale et de soumission à l'autorité. Ça, c'est, si vous voulez, les deux ensembles de relations qui sont entretenues. Et certains pouvaient vivre des vies très, très heureuses et très épanouies. Alors, dans cette histoire, c'est quelqu'un qui est riche. Il appelle 10 de ses serviteurs et la traduction, j'aime bien la traduction de la nouvelle seconde révisée, est pas toujours bonne, mais sur ce passage-là, elle est bonne. Donc, la manière dont elle rend un petit peu l'ordre qu'il lui dit. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit « Faites des affaires jusqu'à ce que j'arrive ». C'est vraiment la traduction qu'il faut. Je sais que dans d'autres traductions, vous avez « faites des gains »,« produisez » ou « faites fructifier », mais ça n'est pas ce que le maître dit. Et il est important de maintenir exactement ce que le Seigneur dit à ses serviteurs. Il leur remet des sommes d'argent relativement importantes. Encore une fois, si vous lisez certains commentaires et certaines notes dans les Bibles, on dit « Oh, les mines, c'est vraiment des petites sommes qui sont insignifiantes. Elles ne le sont que parce qu'on les compare aux grandes sommes dans Matthieu 25. Matthieu parle des talents. Les talents correspondent à des dizaines de milliers de dollars, peut-être même, si c'est des talents d'or, à des centaines de milliers de dollars. La mine, par comparaison, est plus petite. Mais juste pour que vous ayez un ordre de grandeur, la mine valait 100 drachmas et la drachme était le salaire d'une journée. Et donc, nous avons en gros le salaire de 3 mois, 100 jours, 3 mois et 10 jours de travail. Donc, ce n'est pas rien. Ce n'est pas l'équivalent des dizaines de milliers encore de dollars que nous avons dans Matthieu, mais c'est des sommes relativement importantes avec lesquelles les gens peuvent faire des affaires. J'attends encore que quelqu'un me donne le salaire de 3 mois et demi pour me dire « ben faites des affaires avec cet argent ». Donc, avant de réduire l'importance de ces sommes, il faut quand même en apprécier la grandeur. Ce qui est important, ce sont deux choses de la part dans l'histoire qu'il faut retenir. Il a une confiance totale en eux parce qu'il n'y a pas de contrat, il ne devait pas y avoir de contrat avec des serviteurs. Et il ne leur donne aucune recommandation. Et à nouveau, c'est un contraste avec la parabole que nous avons dans Matthieu, qui montre bien que ce sont deux paraboles différentes. Il ne leur donne aucune recommandation, sauf faire des affaires, et il n'a aucune attente. Il ne dit pas « faites des profits » ou « je veux que vous fassiez des gains ». Ce qu'il veut, c'est qu'il soit actif avec ce qu'il leur a remis, avec les avoirs qu'il leur met entre les mains. Et il leur dit ben, « je m'en vais ». Et alors, il précise pourquoi. Il dit « je vais me faire couronner comme roi ». C'est un peu drôle, cette affaire-là, pour nous aujourd'hui. C'est quoi, aller se faire couronner à l'extérieur? Mais encore une fois, il faut se transporter dans le monde du 1er siècle, dans le monde romain du 1er siècle. Et si vous connaissez un petit peu l'histoire biblique, vous saurez que c'est ce que Hérode, celui qu'on appelait le roi des Juifs, à la naissance de Jésus. Hérode était allé se faire couronner roi à Rome, recevoir la royauté à Rome, 25-26 ans avant la naissance de Jésus. Il n'avait pas l'autorité lui-même d'accéder à la royauté, de se dire roi. Et son fils, l'un de ses fils, qui est aussi Archélaos, qui est nommé dans le Nouveau Testament, a voulu faire la même chose à la mort de Hérode, quand Hérode est décédé. Donc son fils voulait avoir la même dignité et il est allé voir l'empereur Auguste à Rome. Et cette fois-ci, l'empereur a refusé. Il lui a dit « tu ne seras pas roi, tu n'auras pas le titre de ton père ». Donc vous voyez, quand Jésus raconte cette histoire, il y avait un arrière-plan qui leur permettait de dire « oui, ben on comprend ce roi, ce prince, cet homme noble qui va aller recevoir la royauté ailleurs ». Mais il faut apprécier la situation un peu plus que ça. Dans le cas de Hérode et dans le cas de son fils Archélaos, la situation n'était pas nécessairement méritée. Dans le cas de Hérode, on peut hésiter encore, mais dans le cas de son fils, elle n'était absolument pas méritée. C'était un homme cruel, c'était un homme qui avait fait beaucoup de tort. Il avait massacré plusieurs milliers à la fois de Juifs et de Samaritains à deux moments différents. Et quand il était allé à Rome pour demander à l'empereur romain le titre de roi, une ambassade juive est allée après lui en plaidant leur cause et en disant « il ne faut pas que le titre de roi lui soit accordé ». Et finalement, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, Auguste a refusé. Et quelques années plus tard, il sera même déposé et exilé. Et donc, dans cette histoire que Jésus raconte, les gens disent « mais est-ce que ce roi ressemble à Archélaus? Est-ce que c'est un roi juste? Est-ce qu'il va recevoir la royauté ?» Donc, vous voyez, il y a de l'incertitude qui plane. Et il faut attendre la fin de l'histoire pour voir que finalement, c'est un roi plus positif et ses prétentions à la royauté sont légitimes. Dans le cas, je dirais, du maître de l'histoire, nous avons une situation semblable, nous avons une situation qui reproduit celle de Jésus. Certains pensent que les prétentions à la royauté de Jésus sont tout à fait légitimes, mais d'autres disent non. S'il est le roi d'Israël, il ne devrait pas se comporter comme ça. Si c'est vraiment le Messie envoyé par Dieu, il ne devrait pas perdre 100 ans avec les pécheurs et avec les collecteurs d'impôts et avec les femmes et les enfants. Il devrait être avec les gens qui comptent. Il devrait être avec avec les pharisiens, et avec les docteurs de la loi, avec les prêtres. Et il devrait être au temple, pas dans la Galilée des païens. Et donc, voyez, les prétentions à la royauté de Jésus ne sont pas nécessairement acceptées ou vues et comprises de façon positive. Maintenant, quand nous arrivons à la fin et quand nous voyons qu'effectivement il revient avec la royauté et quand nous voyons les actions qu'il pose vis-à-vis des serviteurs à qui il avait confié des sommes d'argent, nous voyons que sa royauté est légitime et qu'il a effectivement été entronné et qu'il est le roi légitime. Mais ça, il faut que nous lisions nous lisions l'histoire jusqu'à la fin. Donc, quand il revient, on ne sait pas ce qui se passe entre-temps, il revient simplement après avoir été investi de la royauté, nous lisons au verset 15, et donc il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné de l'argent afin de voir quelles affaires ils avaient faites. Il ne cherche pas le gain. Dans Matthieu, c'est sûr que c'est le gain, si vous voulez, qui est mis en exergue. Mais ici, ce que le maître sait, qu'est-ce que ses serviteurs ont fait pendant son absence? Pourquoi est-ce que c'est important? C'est le point qui aurait été absolument évident pour les auditeurs de Jésus, parce qu'ils connaissaient très bien la situation culturelle et sociale, et qui est un peu plus difficile pour nous à saisir aujourd'hui. Et les applications, si vous voulez, doivent passer par cette compréhension-là. Pendant son absence, il y a un risque à prendre. Faire des affaires en son nom, ce sont des serviteurs, ils ne peuvent pas faire des transactions pour eux-mêmes. La population, la société, le village, la ville savaient très bien qu'ils étaient les serviteurs qui représentaient telle personne. Et donc, les affaires publiques qu'il ferait, il les ferait en son nom. Il les ferait pour lui. Et alors qu'il était au loin, qu'il était allé pour se faire investir, il y a une incertitude. Est-ce qu'il va revenir roi? Ou est-ce qu'il va être banni, comme par exemple Archélaüs a été banni? Est-ce que nous allons nous retrouver, c'est-à-dire une réflexion de ses serviteurs, est-ce que nous allons nous retrouver aux mains de ceux qui l'ont empêché d'être roi, l'ambassade qui a été envoyée après lui, et quand donc ils vont revenir, ils vont nous faire payer chèrement notre loyauté et notre fidélité. Et donc, il me semble que, si vous voulez, la pointe un petit peu de cette histoire, c'est est-ce que les serviteurs vont demeurer loyaux alors que ça leur coûte, alors qu'ils prennent des risques, alors que l'issue, la finalité n'est pas encore vue. Et c'est ce que nous voyons, si vous voulez, dans les réactions à la fin de l'histoire. Le premier vient et il dit « Maître, ta mine a rapporté 10 mines ». Et je vous inviterai réellement à... j'essaie de voir si je peux trouver une bouteille d'eau. je vous invite vraiment à suivre les paroles du Seigneur telles que le Seigneur les raconte. Ah, merci beaucoup. Il lui dit, « Maître, ta mine a rapporté 10 mines ». Et là, on pouvait faire une comparaison avec Matthieu, comme je dis, qui est une parabole proche mais éloignée, où les serviteurs disent, « Voici ce que j'ai fait. J'ai travaillé avec l'argent que tu m'as donné, et voici ce que j'ai rapporté. » Ici, l'accent n'est pas tellement sur ce qu'ils ont fait, sur leur prouesse, sur leur capacité, sur leur habileté, sur leur intelligence dans le commerce, mais plutôt sur la fidélité à leur maître. L'idée, c'est qu'en réalité, nous n'avons rien fait. Tu m'as remis une mine, elle a rapporté 10 mines, je n'ai fait qu'être fidèle. Je n'ai fait que montrer ma loyauté à ton égard pendant ton absence. Le deuxième serviteur, lui dit la même chose. Enfin, c'est une, on ne va pas passer en revue tous les 10 serviteurs. Et donc, le premier et le deuxième manifestent la même chose. Ils ont été fidèles, ils ont pris des risques, mais ils ont démontré leur loyauté. Et le résultat, c'est que dans un cas, il y a eu des gains. On ne met pas l'accent sur les gains, mais ils sont indiqués. 1000%, 500%, c'est assez phénoménal comme gain. Et le troisième vient par contraste et il dit, voyez le contraste entre ce qu'il dit lui, les premiers disent « Maître, ta mine a rapporté le troisième dit « Je savais, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, je te craignais parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Je savais que tu étais un homme sévère. Donc j'ai un savoir de toi, j'ai une connaissance de toi qui font que je n'ai rien fait avec la mine que tu m'as confiée. On est toujours dans au plan des relations entre les esclaves, les serviteurs et le maître. Il a reçu exactement la même somme que les premiers. Et alors que les premiers, encore une fois, par leur fidélité et par leur confiance, ont dit, ben nous lui faisons confiance, nous croyons qu'il va revenir comme roi et qu'il saura intervenir et agir comme il faut. L'autre fait montre, en tout cas il indique, un savoir qui est un savoir qui ne semble pas du tout être corroboré par l'histoire. Parce qu'il dit, tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Les résultats ou la conversation que le maître a eue avec les serviteurs précédents montrent que ce n'est pas vrai. Le maître n'a pas repris les mines. Ceux qui les ont gagnées, il n'aura pas dit maintenant moi je les reprends. On le sait par la finale de l'histoire. Il dit prenez la mine de celui qui n'a pas été fidèle et donnez-la à celui qui a 10 mines. Donc le maître n'a rien repris. Et en réalité, non seulement il n'a rien repris, mais il a confié des responsabilités énormes en comparaison de ce que les serviteurs ont fait. Il donne une autorité sur 10 villes. 10 villes, c'est la décapole du temps de Jésus. C'est une région très grande. Et l'autre, il a une autorité sur 5 villes. Donc non seulement le maître ne reprend pas, non seulement il n'est pas sévère parce que il n'a donné aucune indication, il a dit simplement ce à quoi je m'attends c'est que vous soyez fidèle, mais il est d'une générosité sans borne, et ce qu'il veut c'est élever ses serviteurs à des positions plus grandes, à des responsabilités accrues. Et c'est donc on arrive à la fin et on va voir comment c'est les vérités, si vous voulez, s'appliquent pour nous aujourd'hui. À celui qui a on donnera, et à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il n'a pas. La formulation est paradoxale, mais celui qui a, il faut qu'on s'en rappelle, c'est un, celui qui a reçu. Il n'avait rien de lui-même. Celui qui a le premier serviteur, mais aussi le deuxième, mais peut-être aussi le troisième, quatrième, cinquième, tous ceux qui ont été fidèles ont reçu. Et ce qu'ils ont fait, comme ils le confessent et le disent eux-mêmes, c'est simplement laisser l'avoir du maître se fructifier. C'est simplement exercer leur fidélité, leur loyauté. S'il y a des risques, il faut les prendre. C'est exactement la définition de la loyauté. Une loyauté qui ne coûte rien n'est pas une loyauté. La loyauté se montre, se démontre et s'exprime quand il y a encore une fois, un prix à payer, quand il y a un coût. Et dans le cas de ces deux serviteurs, ils l'ont exercé et une mine s'est multipliée par 10. Quand on lui ajoute une autre mine, si vous voulez, c'est l'équivalent des responsabilités accrues que l'on a dans la logique de l'obéissance au Seigneur. Dans la relation au Seigneur, ceux qui ont, dans l'obéissance et la fidélité, auront toujours plus. Mais ça n'est pas un avoir qu'ils gardent pour eux. Ce ne sont pas des argents, si vous voulez, avec lesquels ils vont se payer des vacances. Ce sont des responsabilités accrues, des possibilités de servir davantage. On le dit souvent dans nos églises, on dit, si vous voulez demander à quelqu'un de faire quelque chose, trouvez la personne qui est la plus occupée. C'est celle qui va le faire. Et en général, si on cherche la personne qui ne fait rien, ne fera rien encore avec les responsabilités qui sont confiées. Vous voyez, c'est vraiment une logique de la vie spirituelle avec le Seigneur. Plus on est obéissant et plus le Seigneur donne et plus ce qu'il donne est mis au service des autres et mis au service de la cause de Dieu. On enlèvera la mine à celui qui n'a pas. La formulation est paradoxale. Mais en réalité, elle traduit exactement le troisième serviteur. Il avait quelque chose. Il avait une mine comme les autres. Et il avait exactement le loisir et la possibilité de faire comme les autres. Mais il a fait comme s'il n'avait rien. Il a mis sa mine dans un linge et il attendait que le maître revienne pour dire « moi je ne fais rien pour lui, je ne me montre aucun signe de loyauté, je ne prends aucun risque, mais par contre je fais des calculs. Si jamais par hasard il est couronné roi selon son désir et qu'il revienne, ben je lui redonnerai son bien. Je lui redonnerai ce qui m'a donné. » Oui, il y a aucune relation entre le serviteur et le maître. Il n'agit même pas comme serviteur, parce que même au niveau de la loi, un serviteur devait obéir à son maître. Et donc, non seulement il ne montre aucune loyauté, non seulement il ne montre aucune fidélité, non seulement il ne montre aucun amour vis-à-vis de ce maître qui est pourtant généreux au-delà du raisonnable, mais il ne respecte même pas sa position, son statut d'esclave et de serviteur. En réalité, il fait beaucoup moins que ça, puisque selon la loi juive du premier siècle, quand on vous confiait quelque chose, vous deviez l'enterrer pour le protéger des voleurs. Si on vous confiait quelque chose et que vous l'aviez enterré, même s'il était volé, vous n'étiez pas responsable, vous étiez protégé par la loi. Mais si vous le gardiez chez vous, c'est votre responsabilité. Et donc là, si vous voulez, il n'a même pas pris les mesures qu'il faut pour protéger le bien de son maître. Et donc, en réalité, il n'a rien. Mais il n'a rien non pas parce qu'il n'a pas reçu. Il n'a rien parce qu'il n'a rien fait avec ce qu'il a reçu. Et donc, ça, c'est les applications. Nous allons les voir assez immédiatement. Vous enlevez à celui qui n'a pas, mais celui qui n'a pas n'a rien. Celui qui n'a pas, c'est celui qui méprise les dons du Seigneur. Celui qui n'a pas, c'est celui à qui le Seigneur peut donner, et pour des raisons diverses, parfois par jalousie vis-à-vis des autres, parfois par paresse, souvent parce qu'il n'y a aucune relation de vie et d'amour vis-à-vis du Seigneur, eh bien, il ne développe pas les dons que le Seigneur lui a donnés. Quelques autres applications pour nous aujourd'hui, et en laissant la parole nous instruire et nous atteindre. Je pense que la première vérité qui sort de ce passage, tout à fait limpide, et elle s'impose par elle-même, Jésus est roi. Plus pour nous que pour les auditeurs de Jésus. Nous savons maintenant que Jésus n'est pas entre Jéricho et Jérusalem. Jéricho est arrivé, Jésus, en partant de Jéricho, est arrivé jusqu'à Jérusalem. Il a été mis à mort. Et les disciples devaient montrer leur fidélité. Quand quelqu'un est crucifié par les Romains à l'époque, il n'y a plus aucun espoir. C'est fini. Et il a fallu aux disciples, même ceux qui ont été avec lui pendant 3 ans, il a fallu qu'il y ait, c'est-à-dire plus que la foi, presque le sentiment d'affection, d'attachement à lui pour qu'il ne s'éparpille pas dans le monde entier. Ce que Rome faisait, a fait à Jésus, elle l'avait fait à d'autres. Quand il y avait un leader qui est considéré comme dangereux, qui était pris par les Romains, il était mis à mort, mais mis à mort publiquement pour que ce fût une leçon pour les autres. Voici ce que nous vous ferons si vous continuez à agir de la même manière. Et on trouve dans le cas de Jésus, de façon incroyable, à plus d'un point de vue humain, que les disciples ne s'étaient pas dispersés partout. Que le dimanche soir, ils étaient encore ensemble. Vous vous rappelez dans ce que Luc nous dira au chapitre 24. Il y avait un espoir, il y avait un attachement à ce Jésus malgré la croix. Et puis avec la croix, il y a eu la résurrection et l'ascension après la présence de Jésus avec ses disciples et la venue de l'Esprit. Jésus est Seigneur, Jésus est Roi. Et quelques courts mois, peut-être années plus tard, c'est ce Jésus qui se manifeste à Saul de Tarse comme le Seigneur, comme celui qui est assis à la droite de Dieu. Et c'est ce Jésus qui existe, qui est vivant aujourd'hui et que nous servons aujourd'hui. Nous n'avons pas affaire au petit Jésus de la crèche que certains célèbrent encore à Noël, ni le Jésus qui est toujours attaché à la croix, encore que la croix nous soit un symbole très important. Nous avons affaire aujourd'hui au Jésus qui règne à la droite de son Père et comme croyant, comme serviteur, ce qu'il attend de nous, c'est une loyauté, une fidélité et un amour qui lui est exprimé comme les disciples qui nous ont précédés l'ont exprimé. Deuxième piste de réflexion pour nous aujourd'hui, si Jésus est roi, il a le droit d'avoir des exigences sur nous. Nous vivons dans une époque où l'autorité est vraiment bafouée. Et parfois, ça entre même chez les chrétiens. Et on a l'impression qu'on veut un Jésus qui nous aime et qui s'assoit à côté de nous et qui nous embrasse, et tout ça c'est bien, mais un Jésus qui exprime son autorité, un Jésus justement qui dit « je suis Seigneur », on a de la difficulté avec ça. C'est paradoxal parce que le mot le plus fréquent que nous utilisons dans nos prières, c'est Jésus, Jésus, Seigneur, 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 Seigneur. Et pourtant, on ne le reconnaît pas comme Seigneur. Le Seigneur est celui qui décide. Le Seigneur est celui qui prend des décisions. Le Seigneur est celui qui exerce une autorité sans nous demander nécessairement la permission. Jésus n'exerce pas une autorité tyrannique. Il a dit même « je suis votre ami et je vous dis comment les choses vont se passer ». Mais ça n'enlève pas son statut de roi et l'exercice de l'autorité qu'il peut avoir dans nos vies. Et cette autorité, cette seigneurie s'exerce quand nous ne le comprenons pas. Quand je comprends tout, je n'ai aucune difficulté. Je n'ai aucun problème avec une autorité que je comprends et qui me rencontre, si vous voulez, parfaitement. Mais l'autorité devient problématique quand je ne comprends pas ce que Dieu fait. Mais c'est exactement là que Dieu nous dit « soyez fidèles, loyaux et ayez la foi et persévérez dans la foi ». La troisième piste de réflexion, c'est la suivante. Si le Seigneur nous demande notre confiance et si les dons qu'il nous donne sont tout à fait suffisants, il est le Seigneur, tout lui appartient. Et l'apôtre Paul va plus loin dans l'épître aux Corinthiens en disant « Et le Seigneur est à vous, tout lui appartient et lui est à vous ». Et donc, effectivement, les dons qu'il nous donne sont absolument suffisants. Et moi, je m'émerveille de la croissance de l'Église du Christ au Québec, en particulier dans les 40 dernières années. J'ai vu des églises petites et quand on voit des bâtiments qui contiennent des centaines de membres aujourd'hui, ceux qui sont suffisamment âgés, il y a 40 ans, on aurait pensé que ce n'était pas possible. Les églises étaient tellement petites, tellement démunies. Et aujourd'hui, on voit des moyens, on voit des capacités, on voit des dons que Dieu donne. Et c'est absolument extraordinaire. Et il faut être reconnaissant à Dieu pour cela. Les dons que Dieu donne sont suffisants pour les mandats qu'il nous confie, mais il y a des risques à courir. Il y a un prix à payer. Une vie chrétienne pour laquelle on ne paie aucun prix ne vaut pas grand-chose. Le Seigneur place des défis devant nous, le malin place des difficultés devant nous, le monde dans lequel nous vivons sent difficile, et il faut être prêt à payer le coût que le Seigneur nous demande. En particulier, le Seigneur nous demande de montrer publiquement notre allégeance à lui. Combien de fois, j'ai écouté le témoignage d'un des membres de notre Église. Il disait, quand je n'étais pas converti, je n'avais pas honte de lire un de ces journaux scabreux dans le métro. Après ma conversion, j'avais honte de lire la Bible dans le métro. Il y a un problème avec ça. Si nous sommes fiers de notre Seigneur, il faudrait que nous puissions le démontrer publiquement. Intelligemment, bien sûr, pas comme de façon sectaire. Mais il faudrait que nous puissions nous afficher publiquement pour notre Seigneur et ne pas en avoir honte. Le cinquième point, Dieu élève ceux et celles qui lui sont fidèles à de plus grandes responsabilités. C'est vraiment la loi du royaume. C'est comme ça quand ça marche dans la vie chrétienne. Est-ce que vous aspirez à servir le Seigneur plus fidèlement, dans de plus grandes choses? Soyez fidèles dans ce qu'il vous confie maintenant. Une mine, c'est le salaire de 3 mois, mais ça, c'est pas comparable à une autorité sur 10 villes ou sur 5 villes. Le Seigneur est d'une générosité incroyable et il est capable donc d'élever ceux et celles qui lui sont fidèles à des responsabilités et des services plus grands. C'est comme ça que nous imageons Dieu. C'est en le servant pour lui-même, et il nous bénit. Dans ce sens, le Seigneur nous tient pour responsables. Quand le Seigneur confie des responsabilités, quand le Seigneur nous confie des dons, et si nous les cachons, si nous le maintenons pour nous-mêmes, le Seigneur dit, si tu ne fais rien avec ce que je te donne, autant l'enlever et le confier à quelqu'un d'autre. Nous ne sommes pas considérés comme des irresponsables. Nous avons été créés en image de Dieu et Dieu nous tient pour responsables et c'est bien pour nous. Et finalement, le dernier point, quelque chose qui a gêné beaucoup de commentateurs et qu'il faut méditer, je pense, sobrement et humblement, il faut dire que ceux qui vont persister dans leur opposition jusqu'au Seigneur jusqu'au bout vont payé les conséquences. Il ne faut pas s'arrêter à cette scène qui est assez lugubre d'égorgement des ennemis. Nous en sommes d'autant plus gênés qu'on en entend parler dans notre temps. Mais elle appartient à une histoire ancienne qui, si vous voulez, traduit la punition, qui traduit un châtiment de ceux qui désobéissent au roi, de ceux qui sont des rebelles, qui haïssent le roi et qui ne veulent pas qu'il soit roi. Ce que cela traduit, c'est simplement l'idée que si nous persistons à haïr Dieu et à haïr le Seigneur Jésus-Christ, et si nous refusons délibérément et jusqu'au bout de lui donner notre allégeance, eh bien, il y aura des conséquences. Et la Bible, Jésus lui-même, Jésus qui a parlé plus que n'importe qui d'autre de l'amour de Dieu et qui en a donné l'exemple, Jésus a parlé plus que n'importe qui d'autre du châtiment éternel, de sa gravité et de son sérieux. Et nous sommes appelés aujourd'hui à magnifier Dieu et son amour et le salut qui est offert à tous. Tous ceux qui se tourneront dans la foi et la repentance vers Dieu en Jésus-Christ seront sauvés. Et le corollaire de cela, c'est qu'il y a un jugement pour ceux qui continueront obstinément aveuglement à refuser ce salut et à refuser l'amour de Dieu. Donc que le Seigneur nous en protège, que le Seigneur, au contraire, à ceux et celles qui sont des serviteurs et des servantes de Dieu, qui disent, ben, nous allons faire tout ce qui est en notre possible pour que cette bonne nouvelle, pour que la personne de Dieu en Jésus-Christ soit connue de tous et de toutes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.